Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Tous en chœur pour Benjamin Braddock.
Bonjour Benjamin. Puis-je vous poser une question personnelle?
Demandez ce que vous voudrez.
Est-ce votre première fois?
Hélène est une jeune fille très séduisante, n'est-ce pas?
Hello?
Hello.
Je te conseille de te tenir sur tes gardes ce soir. Nul ne veut savoir quel truc Ben a pu apprendre là-bas dans l'Est.
Tu pourras le faire? Je ne suis pas comme ça. Je m'en veux à mort, d'ailleurs.
Tu me plais. Hélène, tu me plais beaucoup.
Afin qu'Hélène ne puisse plus vous revoir, je suis prête à lui dire toute la vérité. Va-t'en.
Ne pleure pas.
Va-t'en.
Au revoir, Benjamin.
Est-ce que tu veux essayer de me dire pourquoi tu as fait ça?
Je vais épouser Hélène Robinson.
Très heureux, Ben.
Ravi de te connaître, Carl. Ça me fait très plaisir.
N'y a-t-il que haine au fond de toi? Qu'est-ce qui t'a poussé à violer ma mère?
M'épouser.
J'en sais rien. Il est étudiant en médecine, on se connaît depuis des années.
Qui? Le type qui était aux os?
Eh bien, je lui ai dit que je l'épouserais peut-être.
Oh, Seigneur Dieu, non.
Pourquoi on commence par le lauréat? D'abord pour des raisons presque évidentes, chronologiques, qui est qu'en 67, il y a, pour faire très vite, le cinéma américain économiquement, alors c'est très important le cinéma américain économiquement, parce que quand il va mal économiquement, personne ne peut faire de films intéressants, c'est-à-dire que le cinéma américain se fonde sur cette idée que tant qu'économiquement les films fonctionnent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dès qu'ils ne fonctionnent pas, là c'est un peu la catastrophe. C'est un cinéma, comme vous le savez, qui n'est pas aidé, pas subventionné, le contraire évidemment du cinéma français, par exemple. Bon. D'un certain cinéma français. Et donc en 67, le cinéma américain va très mal. Ça fait déjà 10 ans que les salles sont de plus en plus désertées, qu'il y a de moins en moins de spectateurs. La télévision est arrivée dans les foyers. Elle a capturé un nombre de spectateurs évidemment incalculable et très important. Donc les studios ne savent plus au fond à quel sein se vouer, en gros à partir de la fin des années 50. Et donc pendant 10 ans, le cinéma américain, les producteurs américains vont chercher des façons de, à la fois de ramener le public dans les salles et de contrer aussi évidemment l'influence de la télévision. Et ça sera une série, on pourrait dire, d'erreurs. Alors il y aura, on pourrait presque dire, la voix théâtrale dans les années 60. On se dit, tiens, c'est un peu auteuriste. On adapte beaucoup de grands auteurs, mais le public se dépasse pas plus que ça. Il y aura le moment psychanalytique à la fin des années 50, où d'un seul coup, on continue à faire des westerns, par exemple, mais on introduit la psychanalyse dans l'Ouest. Le Gaucher d'Arthur Penn, en 58, étant un des premiers films, un peu après Anthony Mann, qui a introduit cette idée-là. Et puis il y en a d'autres qui vont se dire, oui, mais la télévision, c'est un petit carré noir et blanc à l'époque. Hein. Donc comment faire pour contrer l'influence de la télévision? C'est proposer des films en Technicolor, en Super Cinémascope, et donc on va partir dans les années 60 vers des projets, sans mauvais jeu de mots, un peu pharaoniques, type Cléopâtre en 63 par exemple, et puis ensuite des films qui seront de plus en plus chers, avec souvent des stars un peu vieillissantes, et le problème c'est qu'au fur et à mesure que ces films se font, ils coûtent de plus en plus cher, le public vient de moins en moins, en fond ça ne l'intéresse plus du tout de voir ce genre de films-là, et à la fin des années 60, enfin au milieu fin des 60, le cinéma américain, donc économiquement, les studios vont très mal. Ils se disent, finalement, on n'a pas trouvé la formule magique pour arriver à ramener ces spectateurs-là.
Thank you.
en 67, ça va être sans doute le moment du grand démarrage. Alors, il y a 2-3 films qui vont faire que le nouvel Hollywood va exister. Il y a évidemment Bonnie and Clyde, hein, d'Arthur Penn. Il y a un avant, un après Bonnie and Clyde dans l'histoire du cinéma américain. Pour la première fois, on a 2 personnages principaux qui sont plutôt du mauvais côté. Hein, en l'occurrence, Bonnie Parker, Clyde Barrow, qui vont être traités comme des héros. C'est un film extraordinairement critique. La fameuse séquence de fin, le massacre final de Faye Dunaway et Warren Beatty à l'époque est conspué par la critique. Pour eux, c'est trop violent. C'est impossible de montrer autant de violence, évidemment. Et donc, Bonnie and Clyde, à cause de son parti pris, on pourrait dire idéologique, à cause de la façon dont il va filmer, de la violence, et puis très inspiré aussi par les nouvelles vagues européennes. Il faut rappeler que François Truffaut avait décliné l'offre de réaliser Bonnie and Clyde, il n'avait pas voulu le faire. Finalement, c'est Arthur Penn qui le fera. Bonnie and Clyde va être une date extrêmement importante et surtout contraindre ce qu'on appelle à l'époque le code de production, le fameux code Hays, qui est une sorte de code de censure, si vous voulez, à faire machine arrière. En 67-68, hein, ce moment très très clé, c'est aussi l'année de Face It de John Cassavetes, qui est un film qui va avoir une importance capitale, et puis de Rosemary's Baby de Roman Polanski, le premier, deuxième film américain réalisé par le cinéaste polonais Roman Polanski après Le Bal des Vampires. Rosemary's Baby va avoir un succès aussi phénoménal. On y reviendra au cours du cycle pour quelles raisons ce film a eu autant de succès. Et puis le lauréat. Le lauréat est adapté donc d'un roman, hein, d'un homme qui s'appelle Charles Webb, c'est un The Graduate en anglais. Et pourquoi moi j'ai choisi Le lauréat ? Parce qu'il me semble que c'est le film absolument parfait pour comprendre comment on est passé de l'ancien, pour qu'il y ait un nouvel Hollywood, il faut bien qu'il y ait un ancien, comment est-ce qu'on passe de l'ancien Hollywood au nouveau ? Et c'est exactement le film charnière. C'est-à-dire que vous allez voir Dustin Hoffman dans le film, son premier grand rôle, hein, même son premier rôle véritable au cinéma, avant il faisait du théâtre, Dustin Hoffman, il incarne au fond cette espèce d'incertitude de la jeunesse qui est convaincue qu'elle ne veut plus le modèle américain des années 50, grosso modo les parents de Dustin Hoffman dans le film. Alors, titre indicatif, les parents à l'origine de Dustin Hoffman devaient être joués par Ronald Reagan et Doris Day, ce qui en dit long sur le type de modèle que Mike Nichols, ce réalisateur, voulait donner. Et donc Dustin Hoffman, Benjamin Braddock, dans le film, il est coincé entre un modèle qu'on lui propose en gros de reconduire, hein, le modèle d'American Way of Life des années 50, la réussite artificielle, la voiture, la petite maison, le boulot, etc. etc., etc., hein. Et en même temps, il désire un ailleurs qu'il ne s'est pas encore formulé. Et c'est ça qui est très très beau dans le lauréat, c'est qu'il sait ce qu'il ne veut plus, mais il ne sait pas encore ce qu'il veut. Et le film est l'apprentissage, et par moments presque, je dirais, l'apprentissage intime, hein, de ce désir-là.
May I ask you a question? What do you think of me?
What do you mean?
You've known me nearly all your life. You must have formed some opinion of me.
Well, I always thought that you were a very nice person.
Did you know I was an alcoholic?
What?
Did you know that?
Look, I think I should be going.
Sit down, Benjamin.
Mrs. Robinson, if you don't mind my saying so, this conversation is getting a little strange. Now, I'm sure that Mr. Robinson will be here any minute now.
No.
What?
My husband will be back quite late. He should be gone for several hours.
Oh, my God.
Pardon?
Oh, no, Mrs. Robinson, oh, no.
What's wrong?
Mrs. Robinson, you didn't expect...
What?
I mean, you didn't really think I'd do something like that.
Like what?
What do you think?
Well, I don't know.
For God's sake, Mrs. Robinson. Here we are, you got me into your house, you give me a drink, you put on music, now you start opening up your personal life to me and tell me your husband won't be home for hours.
So?
Mrs. Robinson, you're trying to seduce me.
Mais c'est un film qui est très important puisqu'on va basculer évidemment d'une époque à une autre. Alors vous avez esthétiquement aussi évidemment, les chansons de Simon Garfunkel à l'époque, c'est très rare d'avoir une bande-son qui est composée non pas par un compositeur de musique de film, hein, mais par des chansons de l'univers pop qu'on va chercher, en l'occurrence Simon Garfunkel, hein, Sound of Silence, Mrs. Robinson, Scarabour Fair, tout ça, ça évidemment c'est des chansons qui existaient, sauf Mrs. Robinson, avant le film, hein, et que McNichols est allé prélever pour les mettre dans le lauréat. Et donc le lauréat, Benjamin Braddock, va rencontrer, vous allez voir, deux femmes. Une première, c'est une mère, Anne Bancroft, et la deuxième, évidemment, c'est une fille, Katharine Ross.
When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay, resting in my arms again. Restless walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn blow chilly and cold. September I'll remember. A love once new has now grown old.
C'est les petits miracles du cinéma. C'est un miracle qu'a raconté Mike Nichols plusieurs fois. Il travaillait sur le lauréat, il travaillait au montage du film. Il se trouve que son frère lui avait envoyé un album de Simon et Garfunkel et qu'il l'écoutait tous les matins sous la douche avant d'aller bosser. Et puis un matin, la révélation, il se dit, mais en fait, je l'aime ma musique de film. Et vraiment le miracle dans la salle de bain, quoi. Il faut l'imaginer sous la douche. Il fonce dans la salle de montage, il essaye la chanson, et là, c'est une évidence.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows.
you my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence.
Ça marche bien d'abord parce qu'il se produit une identification entre le personnage principal et la teneur de la chanson. Il atterrit à Los Angeles, il a eu son diplôme, tout va bien dans sa vie, ses parents vont lui offrir une Alfa Romeo rouge, la vie est belle, il a 20 piges. Et ben c'est ça qu'on entend parce que c'est un gamin voilà, déprimé qui se demande ce qu'il va faire du reste de sa vie.
Après avoir choisi trois chansons préexistantes dans divers albums de Simon et Garfunkel, Mike Nichols leur en demande une quatrième inédite.
Simon et Garfunkel disent ok, mais on a un peu rien. Et puis Paul Simon, il dit bon, il y a un truc sur lequel je travaille en ce moment, c'est pas du tout fini, mais voilà ce que ça ferait. Il joue des accords à la guitare et il dit ça s'appelle Mrs. Roosevelt. Et là, autre miracle, Mrs. Roosevelt devient Mrs. Robinson, c'est le même nombre de syllabes, ça va pas être difficile. Et d'ailleurs, dans le film, la première fois en fait, on entend di 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 di. En fait, c'est parce que les paroles sont pas écrites encore. C'est-à-dire qu'ils ont le refrain, ils ont les accords, et puis c'est tout. Ça va même rythmer la panne d'essence de la voiture, c'est-à-dire que la guitare ralentit en même temps que la voiture sur l'autoroute jusqu'à l'arrêt complet, la panne sèche. La musique, là, c'est pas, voilà, on met deux, trois jolies notes pour par-dessus les gens qui parlent, pour agrémenter tout ça. La musique, elle a un vrai sens dans le film et elle participe de la mise en scène. Ça, c'est vraiment une réussite totale de Mike Nichols. Synthèse qui se crée autour de ce film et qui évoque la jeunesse, la contre-culture. C'est le moment où le folk émerge aux États-Unis. Le film ne parle pas du tout de la guerre du Vietnam, mais raconte une contestation, raconte une rébellion de la jeunesse. C'est un film qui, dès le départ, on le voit très bien, déteste les adultes. C'est des parents pénibles, des cadras toujours un peu bourrés, un peu suintants, qui se ruent sur le corps faible du pauvre petit Benjamin, qui la grippe, enfin qui s'approprie ce gamin, qui lui cherche à s'approprier sa vie. Et il est la proie des adultes, et en premier lieu la proie de Mrs. Robinson. C'est quand même l'histoire d'une prédatrice sexuelle, cougar avant l'heure.
Mrs. Robinson, you're trying to seduce me.
C'est le film qui révèle Dustin Hoffman. Il a 30 ans, Dustin Hoffman, alors qu'il est censé en avoir 20. Anne Bancroft, qui joue sa maîtresse, Mrs. Robinson, est censée avoir le double de l'âge de Benjamin. Elle a 36 ans en réalité, hein, dans la vraie vie. Katharine Ross a 27 ans. Enfin, personne n'a l'âge du rôle.
Excuse me. Yes, sir.
A room. I'd like a room, please.
Single room or a double room?
Single, just for myself, please.
Did you sign the register, please?
Anything wrong, sir?
What? No, nothing.
Do you have any luggage, Mr. Gladstone?
Luggage? Yes, yes, I do.
Where is it?
What?
Where is your luggage?
Well, it's in the car. It's out there in the car.
Very good, sir. I'll have a porter bring it in.
Oh, no. I'd rather not go to all the trouble of bringing it all in. I just have a toothbrush. I can get it myself. That's all right.
Of course. I'll have a porter show you the room.
Oh, well, actually, I just as soon find it myself. I just have a toothbrush to carry up, and I can handle it myself.
Whatever you say, sir.
Thank you.
Mrs. Robinson?
Yes?
For you.
Thank you. Hello?
Mrs. Robinson?
Yes?
It's Benjamin.
Yes?
Benjamin Braddock.
Benjamin, where are you?
Can you look through the glass? Can you see me now?
Yes, I can.
I got a single room.
That's fine.
But there's one thing. The desk clerk seemed to be a little bit suspicious. Now, I don't know what the policy is.
Well, do you want to go up first?
Yes, I think that would be good.
I'll be up in 5 minutes.
Oh, goodbye then.
Benjamin.
Yes.
Isn't there something you want to tell me?
Tell you?
Yes.
Well, I want you to know how much I appreciate this. Really.
The number.
What?
The room number, Benjamin. I think you ought to tell me that.
Well, you're absolutely right. It's 568.
Thank you.
Non mais en fait on aurait presque pu partir. Moi ce que je trouve, c'est un film que je trouve très émouvant. En fait moi c'est un film que je peux revoir à l'infini pour quelques séquences, même la plupart des séquences, mais aussi pour le dernier plan du film, enfin pour les deux derniers plans du film. C'est-à-dire le moment où effectivement Benjamin Braddock arrache Helen Robinson à cette espèce de mariage programmé dans une église. Hein, qui est filmé de façon à la fois satirique, parce que Benjamin Braddock, en fait, et le film d'ailleurs, emprunte par moments des formes qui ne sont pas des formes de la, on pourrait dire, de la comédie dramatique. La séquence, par exemple, de la cérémonie de retour de Benjamin Braddock après ses études au début, il y a des moments, Mike Nichols le filme presque comme un film d'horreur du point de vue de Benjamin Braddock, qui est entouré par ces espèces de familles, de gens criards qui veulent le tripoter, etc. Il y a même d'ailleurs certains plans, là on peut pas faire d'arrêt sur image, qui sont des citations très très directes de films d'horreur lorsque les mains sortent du cadre pour la gripper alors qu'il veut s'échapper du cadre. Ça pourrait être des zombies, ça changerait absolument rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments où Matigo se sert presque d'un type de filmage qui est celui du cinéma d'horreur, parce qu'il filme du point de vue de Benjamin Braddock, pour lequel cette espèce de masse d'invités, ce sentiment d'oppression, hein, presque par moments totalement étouffant, presque claustro, c'est comme ça qu'il vit, hein, évidemment, la situation dans laquelle il se trouve. Et puis la fin du film dans l'église, hein, qui est évidemment le contre-champ total de la première séquence, hein, du film. Cette fois, c'est plus lui qui a envie de sortir d'un cadre qui est trop étroit et étriqué. Cette fois, cette Amérique, hein, de l'ancien Hollywood, on pourrait dire des années 50, conservatrice, waste, classe moyenne, cette Amérique-là est enfermée à son tour dans un cadre, et lui, il en met très très symboliquement une espèce de barre, hein, c'est presque comme si on avait des vampires à l'intérieur, hein. C'est que là on a toute une iconographie du cinéma d'horreur, c'est Vade Retro Satanas à ce moment-là, il les enferme et lui peut s'en aller, hein. Bon. Alors pourquoi je parle du dernier plan du film? Parce que on pourrait presque se dire qu'il y a deux façons de terminer le film, enfin il y avait deux façons de terminer le film, soit de le boucler sur l'échappée du couple, hein. Finalement il a réussi. Alors, il a réussi beaucoup de choses, Benjamin Braddock, dans le film. D'ailleurs, on peut se poser les questions de cette espèce d'étape initiatique. Elle comporte beaucoup d'obstacles. Au début, il faut se décoincer. On lui propose d'être un petit peu moins rigide. Après, il faut qu'il se dépucelle, parce qu'on comprend évidemment très bien qu'il est puceau lorsqu'il va coucher pour la première fois avec Mrs. Robinson. Et puis après, il faut apprendre que celle qui, pour laquelle il avait beaucoup de respect, voire qui sacralisait un peu à peu, elle commence à être désacralisée. Finalement, elle est accessible. On peut coucher avec elle. Donc, elle quitte un peu son espèce de statut un peu effrayant, un peu autoritaire, mythique, et à la fin c'est pire que ça évidemment, puisqu'elle non seulement elle est désacralisée, mais elle est quasi profanée même par l'histoire, puisqu'on apprend que c'est un personnage qui se transforme, et il est magnifique le personnage de Anne Bancroft évidemment, qui devient à la fin une sorte de véritable sorcière, presque qui incarne de façon extrêmement rigide mais très triste en même temps, parce que dans le film chacun a ses raisons, qui tente que Benjamin Braddock ne se soit pas avec sa fille, pour des raisons dont on pourra reparler d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle refuse que Braddock soit avec sa fille. Et donc, on se rend compte qu'on aurait très pu considérer que c'est l'histoire, finalement, vue de loin, d'un personnage qui a envie de sortir d'un milieu dans lequel il étouffe un tout petit peu, qui s'affranchit de tout ça, et à la fin, formidable, c'est le vent de la liberté, on les voit courir dans les rues, elle en tenue de mariée, et lui, le contraire physique de ce qu'il était au début. Au début, c'est un robot. La première séquence du film, quand il est sur un tapis roulant, il est de profil, il bouge pas du tout. C'est une très très belle métaphore de cet homme qui est guidé, qui ne se déplace pas dans l'espace, mais qui est déplacé dans l'espace par un tapis roulant. C'est l'homme moderne robotisé, c'est-à-dire qu'il avance tout seul. Enfin, c'est même pas qu'il avance tout seul, c'est qu'il est très très littéralement sur une trajectoire qui est programmée. Sa vie, c'est un tapis roulant. Alors, pour lui, il y a deux solutions. Ou il reste sur le tapis roulant, c'est-à-dire qu'il reste avec ses... il aura une trajectoire qui sera conforme à celle que veulent ses parents. Ou alors il sort du tapis roulant. Et tout le film, évidemment, c'est l'histoire d'un personnage qui a commencé sur un tapis roulant et à la fin qui court, et qui a réussi à s'affranchir de ça. Et la fin, c'est pareil. C'est que on pourrait dire que le plan dure anormalement. Alors, il ne dure pas anormalement en soi. Il dure anormalement par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. En se disant, c'est bon, maintenant ils sont tous les deux. Voilà, contre-champ, tous les plans du film, le bus s'en va, cut, générique, et c'est parti. Et là, on sent qu'évidemment, ça dure un peu trop. Et ce qui est très très beau, c'est quand on regarde le film, c'est l'évolution. Moi, pour moi, c'est un des grands plans de l'histoire du cinéma américain, l'avant-dernier plan du film, précisément d'ailleurs. C'est l'évolution, évidemment, des regards et des visages de Helen Robinson et de Benjamin Braddock. Au début, ils sont totalement sur la même longueur d'onde, tous les deux joyeux, euphoriques. Là, on peut dire que c'est l'image d'un couple qui ressent, va dans la même direction, la coïncidence, l'osmose parfaite. Et peu à peu, cette osmose-là, elle se brise. Mais ce qui est génial, c'est que Mike Nichols nous montre une osmose qui se brise alors que le couple n'en a pas encore conscience. Autrement dit, la mise en scène, elle a de l'avance là sur l'histoire et les personnages. Et là, le visage de Benjamin Braddock, de Dustin Hoffman, peu à peu s'assombrit. Son sourire disparaît. Et on se rend compte à ce moment-là qu'il repart. Alors là, il faut avoir un peu le film en tête. Mais on voit qu'il retrouve à ce moment-là à peu près l'expression qu'il avait dans le tout premier plan du film. C'est-à-dire qu'au début du film, il est absent à lui-même, il regarde sur les côtés alors que tous les gens dans l'avion regardent ailleurs. On voit que c'est déjà l'histoire d'un individu qui n'est pas, mais littéralement, raccord avec le monde dans lequel il habite. Il est là, présent, son corps est là, mais lui n'est pas là. C'est comme au moment où il descend les escaliers, puis la caméra s'attarde sur une espèce de clown. Voilà le rôle qu'il va jouer au milieu des invités, c'est ce clown-là. Et à la toute fin du film, évidemment, le Mike Nichols décide de reciter, de faire écho à ce plan d'ouverture. Oui, mais alors finalement, il est libre, il a la femme qu'il veut, il a à peu près, il devrait être totalement épanoui. Et en même temps, il y a une forme d'aliénation, d'échec, de nouveau, on pourrait dire, désaccord qui est en train de s'introduire dans le plan à ce moment-là. Alors c'est très très beau parce que, évidemment, non seulement ça remet presque Dustin Hoffman, on sent qu'il revient presque à zéro dans un monde différent. C'est-à-dire qu'évidemment, il s'agira plus cette fois de combattre une famille un peu conservatrice. Il y a une autre forme d'incommunicabilité, comme on disait à l'époque, qui est en train de s'introduire à l'intérieur du plan et du couple. C'est-à-dire que ce que ce film, à ce moment-là, Mike Nichols, c'est un couple qui est déjà en train de se détruire alors qu'il n'a même pas commencé à exister. Silence.
sound.